Combien d'entre vous pensez que la Bible est silencieuse sur le sujet de la sexualité? Elle dit pas grand-chose pour dire qu'elle n'en dit pas, presque ou presque pas. Combien est-ce qu'il y en a qui pensent ça? Ah, il y en a qui sont gênés, hein? Si je vous demandais de compléter la phrase suivante, le sexe, c'est un plaisir. Oh. Quelqu'un a osé le dire. D'autres diraient, le sexe, c'est un plaisir. Ah, ouais. Bon, puis c'est deux femmes qui ont dit ça ce matin. Hein? Le sexe, c'est un devoir. Oh là là, hein? Ah, le sexe, c'est un problème. Le sexe, c'est un péché. Allez, là, dites-le. Hein? Il y en a qui n'osent pas le dire. Mais le sexe est vraiment quelque chose qui est présenté dans la Bible. Même si je vous disais là que la Bible en parle d'une manière assez explicite de la sexualité, seriez-vous surpris? Non? Parce que vous connaissez la Bible si vous dites ça. Dans les 66 livres, OK, la Bible qui est ici, là, puis si vous avez une Bible, alors, ça a 66 livres. Une partie, c'est dans l'Ancien Testament, puis une autre partie, c'est dans le Nouveau Testament. 39 dans l'Ancien. Alors, c'est différents livres comme la Genèse, l'Exode et ainsi de suite. Et ça finit avec Malachie. Et après ça, il y a le Nouveau Testament où il y en a 27. Ça commence avec l'Évangile de Matthieu et ça finit avec l'Apocalypse. Donc, ça fait combien de livres, ça? Ça fait 66 livres en tout, d'un couvert à l'autre. Mais il y a un livre dans la Bible, tout un livre, là, tu sais, qui, le thème principal, le sujet, dans les 8 chapitres, c'est la sexualité. Puis même l'érotisme dans le couple. Imaginez-vous. Un livre dans la Bible, il y en a qui étaient tellement inconfortables avec cette idée-là, que là, ils l'ont allégorisé, là. T'sais, comme à un moment donné, la Sulamite, qui est la femme du roi Salomon, elle dit, mon bien-aimé est comme un bouquet entre mes deux seins. T'sais, c'est assez explicite, là, hein? C'est... Mais savez-vous ce qu'il y en a qui ont fait dire à ça? C'est que le bouquet entre les deux seins, c'est la période de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. OK? Donc, un saint, c'est l'ancien. Il doit être plus gros, celui-là, parce qu'il y a 39 livres. 39 livres, puis 27 livres. Fait qu'il veut pas, hein? Et entre les deux, c'est le bouquet. C'est pas drôle, dans le fond, hein? Mais c'est quand même ça. Puis là, quand il arrive à d'autres versets, là, ah ben là, c'est assez spécial, là, les affaires, la gymnastique qu'ils font pour essayer de faire dire ce que ça veut pas dire. Parce qu'en fait, ici, Dieu a vraiment choisi, dans sa sagesse et sa grandeur, de montrer que la sexualité dans le couple, et l'érotisme dans le couple, le romantisme dans le couple, et toute la relation d'intimité la plus intime et sexuelle qui peut exister entre un homme et une femme, c'est tout à fait quelque chose d'extraordinaire et de beau et de fantastique. Hein? Et Dieu a dit, garde, je vais donner un livre là-dessus. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce livre-là est écrit en poésie et d'une poésie orientale, hébraïque. Et puis là, il y a des images là qui ne nous rejoignent pas tellement, disons. OK? Je vais vous donner un exemple. Ça dit ceci. Ça, je suis dans le chapitre 2 de Cantique des Cantiques. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Ah, c'est pas pire. T'sais. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Ah, c'est-tu beau, hein? Et son fruit est doux à mon palais. Elle n'est pas en train de parler de la pluie et du beau temps, là. Hein? Son fruit est doux à mon palais. Avez-vous besoin d'explication? Vous devrez me voir après. Okay? Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Hein, c'est de la poésie, hein? Ça, C'est pas aussi soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, tout ça. Je ne suis pas sûr que. L'exemple qui m'est venu à la tête, là, parce qu'à ce moment-là, ça dit quelque chose. Tu sais, Salomon, là, quand il entend ça, dire ça de sa Sulamite, là, hey, lui, là, il est en train de. Il sait ce qu'il veut dire, là, tu sais. Ça, c'était un peu, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais ça me jouait Joël Lapierre, tu sais. Joël est marié avec Julie, tu sais, depuis quoi? 8 ans, je pense? 10 ans? Arrêtez, oui! Oui! Félicitations, Julie! Oui! Franchement, Julie est bonne, hein? 10 ans, 4 enfants! Oui! C'est merveilleux, gloire à Dieu. Hey, 10 ans déjà, c'est incroyable. Spécial. Mais là, maintenant, je vois là, Joël qui veut exprimer en poésie son amour envers Julie. Puis là, il lui dit, Julie, là, tu sais, là, ton amour, tes caresses valent mieux pour moi qu'un gros sous-marin. Ciboulé! 12 pouces! Juteux, là, tu sais, puis garni, là. Ah, Julie, là, être dans tes bras, là, ça vaut mieux que 10 de ces Subway. Hein? Mais voyez-vous, hein, comment. Ah, là, Julie, je sais pas si elle verrait ce que ça veut dire dans le cœur de Joël, ce qu'il est en train de dire, là, tu sais. Ou encore, Julie, ton amour vaut mieux que une scène noire 1824. Tes étreintes, ça vaut plus pour moi qu'une scène noire. Tu sais, mais je ne sais pas s'il est encore là, comprendrait tellement ce qu'il veut dire. Mais ici, c'est l'amour naturellement poétique, romantique. Et c'est là, elle veut communiquer un message. Regardez ici, elle continue en disant que sa main gauche, après avoir dit je suis malade d'amour, là, elle dit que sa main, peut-être parce qu'elle a mangé trop de Subway, je ne sais pas. Non, hein, que sa main gauche soit sous ma tête. Et sa main droite m'embrasse. Je ne sais pas si vous comprenez encore là, ce que ça veut dire, mais c'est très sensuel. OK? C'est dans la relation d'amour que Dieu donne ici. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé s'emballe à la gazelle et au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Hein? Vous avez déjà fait ça? Hein? Pour voir votre bien-aimé? Mon bien-aimé finalement parle, enfin, là, après 8 versets, là il va dire de quoi? Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, courlou-coucou. » Et, parce que regardez ce qui s'en vient après, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Avez-vous ça, des tourterelles chez vous l'été, là? Ils sont toujours en coupe, hein? Et ça roucole, ces affaires-là, c'est incroyable. Parce que c'est la période des amours. Vous voyez? C'est ça qu'elle essaie de faire voir à Salomon et que Salomon lui répond en. Et là, il dit, « Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Hein? Viens, viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ta figure, ton visage, agréable. » Il me semble là, hein? Phew. Extraordinaire. Et ça, le Cantique des Cantiques, présente cet aspect-là. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, un de mes amis, avec qui je faisais du jogging, et puis on était tous les deux célibataires, et il me dit, Benoît, je comprends l'Évangile, là. Je comprends ce que tu me dis par rapport à mon état de pécheur devant Dieu. Je comprends que j'ai pas toujours été correct, là. Même si je suis pas un brigand, un meurtrier, tout ça, je suis pécheur, je le reconnais. Et là, tu m'expliques que, bon, Dieu, il est saint, puis moi, je suis pécheur. Puis là, il y a un bris, là. Il y a quelque chose qui marche plus. Et puis là, si je reste comme ça, il y a un châtiment qui va être sur moi parce que je suis pécheur, je ne peux pas m'aller dans la présence d'un Dieu saint. Je comprends ça. Puis là, tu m'as expliqué que la bonne nouvelle, c'est que Jésus y est venu. Lui qui était sans péché, lui qui était de nature divine égale à son Père, il est venu sur la terre, il a vécu d'une manière parfaite, il a prêché un message puissant, il a transformé des vies, il a fait du bien, et il est allé jusqu'à la croix, même s'il ne méritait pas de mourir. Mais tu dis que c'est pour moi. Il dit, je comprends ça, je comprends que Jésus est mort à la croix à ma place. Puis là, il dit, ça m'interpelle beaucoup. Mais il dit, j'ai une lutte en dedans de moi, j'hésite. Je dis, c'est quoi qui te fait hésiter? Voyons donc. Richard, le Seigneur t'aime, il veut changer ta vie, il veut pardonner tous tes péchés. Oui, mais il dit, Benoît, je ne sais pas si je peux te dire ça, je suis un peu embarrassé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Richard, je suis ton chum, voyons donc. Je vais prier pour toi, puis si je peux t'aider, je vais essayer de t'aider. Mais il dit, mon problème, c'est celui-là. Là. Il dit, regarde, il dit, si j'accepte Jésus comme mon sauveur, si j'accepte son invitation dans ma vie, il dit, j'ai l'impression que je vais devoir renoncer à une vie sexuelle, active et piquante. Hot, tu sais, une vie... Dis-moi, il dit, la sexualité, c'est bien important. Levez votre main, les hommes, pour qui la sexualité, c'est important. Non, madame, baissez votre main, non, les hommes seulement. Ah, regardez les autres qui n'ont pas levé la main. Ouais. Même Joël n'a pas levé sa main en arrière, là. Hein? Mais là, il dit, je suis vraiment... Il dit, je te dis, il dit, moi, je veux pas renoncer à ça. Ben, j'ai dit, regarde bien, Richard, j'ai la solution. J'ai un livre pour toi. Et là, vous savez, j'ai prêté le livre de Dan Benson, un livre qui, là, moi, je parle des années, là, 1977-78, là, OK? Ça fait quand même plusieurs années. Mais c'est un, je ne sais pas si, moi, je l'ai encore, ce livre-là, mais je ne sais pas s'il est toujours publié. Mais c'est l'homme total. OK? Et là, il y a toute une section dans ce livre-là sur la sexualité selon Dieu. Puis je vous dis quelque chose, là, il ne s'est pas gêné pour montrer la perspective de Dieu sur la sexualité et comment c'est beau, la sexualité dans le couple. Il a lu ce livre-là, il s'est converti. Pour vrai, il est même venu ici, là, il ne fait pas tellement longtemps, avec sa femme et ses enfants. Il est marié depuis plusieurs années et il continue à suivre le Seigneur. Mais c'est comme là, quand il a vu la perspective de Dieu, Il y avait des tabous dans sa tête. Cette perspective peut-être qui nous a été présentée pendant bien des années au Québec et puis où la sexualité c'est mal, la sexualité c'est péché, c'est arrivé, mais en tout cas moi il y en a qui m'ont conté que tu sais il fallait qu'ils prennent le douche avec des soutanes, des espèces de soutanes sur eux autres, il fallait pas qu'ils soient nus, tu sais, il fallait qu'ils se lavent en dessous de ça, puis la sexualité, c'était seulement pour faire des enfants, et puis il fallait pas qu'il y ait trop de plaisir avec ça, associé à ça. C'est sûr que l'homme, c'était difficile pour lui, là, de faire des enfants sans avoir du plaisir, mais c'est sûr qu'il y avait ces notions-là qui existaient beaucoup. Pour lui, c'était ça, mais je suis content qu'il ait vu la perspective de Dieu. Et qu'il ait pu voir que non, ça c'est faux. Et là vient, j'ai trois déclarations choc ce matin que j'aimerais vous faire par rapport à la sexualité et ce que la Bible en dit. En passant, c'est ça, je n'ai pas passé mon petit PowerPoint là. Alors, ce que la Bible en dit. Trois déclarations choc, OK? La première, c'est justement celle-ci. La sexualité est un don excellent de Dieu, OK? Dieu n'a aucun problème avec la sexualité. La sexualité en tant que telle n'est pas péché, ni le résultat du péché. OK? Le fruit défendu, là, c'était pas ça. Quand ça parle dans la Genèse, là, qu'ils ont pris le fruit défendu, la soi-disant pomme, là, c'était pas la pomme d'Adam, ni la pomme de Ève. OK? C'était une pomme dans un arbre. C'est-à-dire, c'était pas une pomme, premièrement, excusez-moi, là. La Bible dit que c'était un fruit. Elle ne spécifie pas que c'était une pomme, mais c'était un fruit. Mais la croyance populaire a circulé que c'était une pomme. Alors, c'était un fruit défendu, mais ce n'était pas la sexualité. Mais non, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Là. Et Dieu leur avait déjà dit d'être féconds puis de répandre la terre. Ce n'était pas défendu, là. Il y avait juste Adam et Ève, là. Alors, ce n'était pas un problème, là. Dieu était d'accord avec ça, puis c'est justement ce qui est présenté. Quand Dieu a créé l'homme, là, OK, il l'a créé tel que vous et moi, là. Adam, il vous ressemblait bien gros. Peut-être pas même grandeur, même couleur des cheveux, des yeux, puis tout ça, là, mais c'était un homme. On prenait un homme, là. Un homme comme ça. Ou peut-être comme ça, OK? Costaud. C'était un homme. Puis Ève, là, quand il l'a créé femme. Une femme. Il l'a créé comme ça. OK? Vous voyez? Pas les mêmes dimensions, pas les mêmes regard, pas de la même façon, mais une chose est sûre, différent, mais complémentaire. Il n'y avait pas quelque chose de mieux que ça. Il les a créés exactement avec l'appareillage d'un homme au niveau de la sexualité et celui de la femme au niveau de sa sexualité. Il l'a créé homme, il l'a créé femme. Aujourd'hui, on sait que la masculinité de l'homme et la féminité de la femme sont inscrites non seulement dans leurs organes sexuels, qui définit un homme et une femme, ou la longueur des cheveux. Mais en fait, la sexualité ou la masculinité, la féminité, la caractéristique sexuelle de l'homme et de la femme se retrouvent dans l'ensemble de leur code génétique. Ça, ça veut dire jusque dans leurs cheveux. Autrement dit, ils vont trouver, mettons, là, 500 ans plus tard, c'est pas un pharaon parce que c'est au-dessus de 2000 ans, puis tout ça, mais peu importe, là, quelqu'un qui est mort depuis des années, puis s'ils réussissent à aller analyser leur ADN, ils vont savoir le sexe qu'il y avait, si c'était un homme ou une femme, par un cheveu ou un fragment d'os, ou tellement que la masculinité et la féminité fait partie intégrale du code génétique, c'est partout. OK? Même dans notre sueur, dans tout ce qui nous caractérise comme personne, là, c'est inscrit là-dedans. Qu'on est soit un homme ou qu'on est soit une femme. Alors, un homme est homme à 100% et une femme est femme à 100%. Même lorsqu'un homme ou une femme veulent un changement au niveau de leur apparence sexuelle, ils demeurent foncièrement au niveau de leur ADN un homme et une femme. Et ça, ils ne peuvent pas changer ça. Ils peuvent enlever des morceaux, mais ils ne peuvent pas changer ça. Vous comprenez? C'est impossible. Par exemple, le cerveau de la femme. Non, riez pas là, c'est sérieux. Le cerveau de la femme est très distinct du cerveau de l'homme. Des recherches sérieuses ont montré que le cerveau de l'homme est actif seulement lorsqu'il est engagé à faire une tâche. Sinon, son cerveau, où on voit ici là, de la chaleur, là, lorsqu'il y a de l'action, là, sinon, son cerveau, il est fret. OK? Il n'y a pas de sang qui circule ici, sur le dessus de la tête, là. Tu le vois, là, c'est... À un moment donné, c'est rouge, puis à un moment donné, whoop, quand il ne fait plus rien, là, puis il est en repos, autrement dit, là, là, il vient fret. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Il se repose. C'est incroyable, hein? Je l'ai vu, ce reportage-là, là. Je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux, là. Tandis que celui de la femme, il est constamment actif, même quand elle ne fait rien. Spécial, hein? Tu vois, là, s'il y a de la chaleur, là, là, c'est rouge, là, tu sais? Puis elle ne fait rien, mais elle est encore en train d'avoir de l'activité cérébrale. Autrement dit, ça, c'est ma conclusion. L'homme a développé la capacité de se détendre plusieurs fois par jour. Pour la femme, c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, comprenez-vous pourquoi les femmes aiment que les hommes s'impliquent davantage et spontanément dans le foyer? Elle s'est assise sur le divan, là, puis la vaisselle n'est pas faite, là. Elle, là, ça bouge en dedans, là, ici, là. Puis c'est avoué son coco, là, qui, lui, est assis sur son lazy boy, puis il sirope un jus ou whatever, là, tu sais, puis que lui, il se détend, puis elle comprend pas ça, tu sais. Puis là, les enfants sont là, pour autour, puis tout, puis ainsi de suite, puis là, lui, c'est une autre planète. Non, non, il est en repos. Vous comprenez? C'est incroyable. Pendant des années, là, c'est une confession que je vous fais, puis ma femme est au courant, mais pendant des années, moi, j'ai lutté avec ma femme, ma douce et belle épouse, pour ne pas faire la vaisselle après le souper. C'était une lutte de pouvoir. T'sais? Puis là, c'est au niveau du cerveau que moi, tu sais, là, je disais, voyons donc, assis-toi donc, puis laisse-la faire la vaisselle, c'est pas important après le souper, là. Fatigué, là, on va en faire tantôt la vaisselle, là, plus tard. Puis là, elle disait, mais je suis pas capable de me reposer, ça me fatigue, ça m'énerve, puis tout ça, puis viens donc la faire avec moi, puis ah ouais, donc, me s'occuper des enfants toute la journée, puis. Moi, j'étais en repos, là. Il n'y a plus d'activité cérébrale. Puis là, je la comprenais pas pantoute. Je trouvais ça... je trouvais qu'elle n'était pas compréhensive. Mais même ça, avec il y avait un lave-vaisselle, mais tu sais, ça ne lave pas toute la vaisselle, ça, le lave-vaisselle. Anyway, jusqu'au jour, là, où là, j'ai dit, je vais aimer ma femme. Voilà. Je vais aimer ma femme. Je vais la comprendre. Hein? Pour garder l'harmonie conjugale, j'ai cédé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Sans le savoir, c'est que là, je lui ai dit, tu vois, t'es précieuse, je t'aime, et puis je vais être avec toi. Mais savez-vous ce que je faisais en même temps? C'est que j'étais en train de la préparer à l'amour. Hein? Il y a un livre qui a été écrit, ça s'appelle « Le sexe, ça commence dans la cuisine ». Non, mais c'est... Pour une femme, tout est lié ensemble, vous comprenez? Puis là, tout à coup, quand nous, on décide de prendre soin de notre épouse et de considérer ce qui les touche, ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent et tout ça, bien là, il y a quelque chose de fantastique qui se passe. Et puis là, c'est l'harmonie dans le couple. Et quand il y a l'harmonie dans le couple, bien, il y a l'harmonie à tous les niveaux. Et ça fait partie du plan de Dieu. Et puis, avec le temps, ce qui est fantastique, c'est que Dieu ne nous l'a jamais tombé avec ça. C'est que là, moi, j'ai développé maintenant l'amour de la vaisselle. C'est incroyable, hein? Ça me dérange vraiment plus à ça. Puis même là, j'ai de l'initiative. Imaginez-vous, là. Là, il y a de l'évolution, là. Excusez, les frères, si je vais mettre de la pression sur vous autres maintenant, là, à partir d'aujourd'hui. Mais là, comme Christina aussi, elle travaille de jour et tout ça, fait que... Donc, moi, si j'arrive soit du bureau ici ou si je suis à la maison, quand je travaille à la maison... Bien là, s'il y a de la vaisselle, c'est vous une des choses que je vais faire avant qu'elle arrive? Un, je vais faire la vaisselle. Parce que je sais qu'elle va apprécier ça énormément. Et là, je fais la vaisselle, puis je suis content, là. Je suis joyeux, je suis en train de penser à elle, puis je sais qu'elle va aimer ça, elle va être contente quand elle va arriver. Puis là, à cette heure, en plus, on a une petite blanche, là, quand elle arrive, là, je la prépare. Puis là, quand Christian elle arrive, ben, maman est arrivée, vas-y. Blanche, c'est une bichon maltais, c'est une petite chienne. Hey, cute, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, je vais vous la montrer, là. C'est l'amour de ma vie, à part ma femme et mes trois filles. Hein? À part ma femme et mes trois filles, là, OK? Mais c'est toute une petite boule et c'est merveilleux. Fait que là, après ça, ben là, j'essaye le plus souvent possible de préparer même le souper. J'ai de l'initiative. C'est extraordinaire, hein? Alors, vous voyez que c'est possible de faire des choses pour la gloire de Dieu et que... Mais savez-vous ce que ça fait, ça? C'est que ça lance un seul message à mon épouse. Je t'aime, tu es spécial, puis si je peux faire de quoi pour que tu relaxes. Vous savez, messieurs, là, la chose la plus difficile, hein, on est rendu au deuxième, la chose la plus difficile pour vos femmes, c'est de relaxer. Et une femme, elle n'aime pas ça avoir à demander tout le temps. Ferais-tu ça? Ferais-tu ça? Ferais-tu ça? Quand on vient et on fait quelque chose qu'on ne l'a pas demandé, elle ne l'a pas demandé, là, ah ben là, 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 wow, hein? Là, là, viens ici, là, toi, là, hein? Hé, hey, hey, ça, c'est romantique, puis pas à peu près. Pas à peu près. Parce que là, tu as pensé à elle. Comprenez? Puis là, en plus, c'est que tu l'aides à relaxer. Ah, j'aurais pas ça à faire, pas ça à faire. Parce que là, on s'en venait. Puis là, tout à coup, wow! C'est ça, c'est qu'on est fait différemment. C'est fantastique. Deuxième chose. Que veut dire l'expression épanouissement sexuel? Là, vous avez vu déjà la. Mais est-ce que ça veut dire l'abondance sexuelle? Est-ce que ça veut dire les expériences sexuelles multiples? Est-ce que ça veut dire la liberté sexuelle? Est-ce que ça veut dire la satisfaction ou la jouissance sexuelle? Est-ce que ça veut dire la variété sexuelle? Est-ce que c'est ça l'épanouissement sexuel? Et la réponse, c'est non. En fait, et c'est ça ma deuxième déclaration choc que vous avez depuis je ne sais pas combien de temps là, mais l'épanouissement sexuel a très peu à voir avec la sexualité. Hein? Mais non, non. Non, c'est vrai. Mais là, vous comprenez un peu. L'épanouissement sexuel, voici ce que ça veut dire. C'est d'atteindre le but premier pour lequel la sexualité a été donnée par Dieu. N'oubliez pas, là, la sexualité, c'est un don excellent de Dieu. Si je ne comprends pas ça, je passe à côté du bateau. Donc, Dieu, il est avec moi là-dedans. Là. Dieu, il est favorable à ça. C'est lui qui nous a créés comme on est. Et tout le plaisir qu'il a d'associer à ça, c'est lui qui le voulait aussi. Là. Donc, mais il y a un but, par contre. Et il y a un but premier pour lequel la sexualité est donnée. Et cette sexualité-là a été donnée, non pas selon ce qu'on a entendu dans le passé, que la sexualité était mal, ou encore ce qu'on entend présentement, de plus en plus dans notre société, qui est que la sexualité, dans le fond, il y a un seul but. C'est le plaisir. Donc, si tu n'as plus de plaisir, c'est correct d'aller chercher ailleurs. Comprenez? C'est logique, là. Si le but de la sexualité, c'est le plaisir, et c'est ça le but premier, bien, c'est sûr que si j'ai plus de plaisir, bien, je vais aller chercher ailleurs. Parce que je mérite le plaisir, j'ai droit au plaisir, au bonheur, puis tout ce qui vient avec, et c'est ci, puis c'est ça. Puis si moi, ça me fait plaisir, même si l'autre, ça lui fait déplaisir, bien, c'est pas grave. Puis là, si elle veut pas me le donner ou lui veut pas me le donner, m'aller voir ailleurs. C'est correct. Mais non, parce que c'est pas ça. Ça, c'est deux notions étroites. La sexualité, c'est mal ou c'est péché, puis c'est juste pour la procréation. Ou la sexualité, c'est juste pour le plaisir. Puis vas-y, amuse-toi, puis il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est deux notions trop étroites. Il y a du vrai dans que c'est pour la procréation, puis il y a du vrai dans que c'est pour le plaisir. Mais les deux sont trop étroites. Il manque quelque chose d'important. Maintenant, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que là, je m'en viens à quelque chose de très important. Et c'est pour ça que ça déborde de la technicalité, là, de tout ce qui pourrait entourer la sexualité. Et c'est vrai qu'en fait, je ne parle pas de sexe là, comme tel, de la mécanique et des techniques et de tout ce qui veut dire avec ça. Ça, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Mais là où je veux emmener ce matin, c'est que je veux vous présenter ce que la Bible a à dire de la sexualité. Et la sexualité pointe dans une direction. Pourquoi avons-nous été créés? Pourquoi as-tu été créé homme et pourquoi as-tu été créé femme? Dieu, en nous créant, nous a créés pour un but bien particulier. Et la sexualité s'insère, oui, dans pourquoi qu'on a été créé, mais elle ne se limite pas à ça, elle pointe plutôt vers quelque chose de plus important. Et là, ici, je vais citer un auteur qui s'appelle Rick Warren. Il a écrit un livre très connu en Amérique du Nord, puis même il a été traduit en plusieurs langues, dont en français, il existe en français, qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée ». Et il fait le commentaire suivant. « Pourquoi sommes-nous sur la terre? Quel est le but de notre vie? Quel est le sens de notre existence? » Et là, il dit ceci, très important. « Le but de notre vie dépasse de loin notre épanouissement personnel. » Et là, on pourrait mettre, entre guillemets, sexuel. Hein? C'est sûr. Je suis certain qu'il ne serait pas contre ça, là, parce que ça fait partie de notre épanouissement personnel. Donc, le but, ça dépasse de loin, là, des mille et des mille. Ça dépasse aussi de loin notre paix intérieure et notre bonheur sur la terre. Comprenez? Il est bien plus grand que notre famille, que notre carrière, que nos ambitions et même nos rêves les plus fous. Si nous voulons découvrir la raison pour laquelle nous avons été placés sur cette terre, il faut commencer avec Dieu. C'est là que ça commence. Il faut regarder à la parole de Dieu, la Bible. C'est le livre de Dieu dans lequel il veut nous parler. Il faut découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Et là, il dit ceci, « Nous avons été créés par Dieu et nous avons été créés pour Dieu. » Imaginez-vous, Dieu nous a créés, mais il nous a créés aussi pour lui, pour qu'on le connaisse, pour qu'on ait une relation avec lui. Dès le livre de la Genèse, Dieu nous dit que le but premier de la sexualité est de permettre à un homme et une femme de devenir une seule chair. Ici, ça veut dire de connaître la plus profonde intimité qui puisse exister entre un homme et une femme. Le mariage et la relation sexuelle qui vient avec débutent ou pointent dans la direction de cette déclaration de Dieu de devenir une seule chair. Il y a vraiment comme une fonte des deux dans une seule personne. C'est assez graphique là, comme image. Il n'y a rien de plus profond que ça en termes d'intimité, de relation. Tu sais, si deux deviennent un, vous comprenez, il y a une soudure, il y a un collage incroyable. Là. Et c'est ce que même la Bible dit à plusieurs autres endroits, qu'on n'a pas à briser, à séparer ce que Dieu a collé. Le mot, c'est « uni », mais c'est le mot « collé », a collé ensemble. Avec une super glue, une colle spirituelle qu'il a destinée spécialement pour cette relation entre un homme et une femme dans le contexte du mariage. Ça dit même dans la Bible qu'elle emploie un mot pour décrire le fait de devenir une seule chair, et c'est le mot « connaître ». C'est spécial ce mot-là, parce qu'ici c'est un mot qui veut dire « avoir une intimité profonde, un partage, une communion. » Et regardez quand ça dit dans la Genèse, un petit peu plus loin, alors l'homme et la femme deviendront une seule chair, ça c'est dans le chapitre 2 de la Genèse, mais au chapitre 4, ça dit ceci, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. » Alors ici, l'intimité, c'est reflété par cette idée de connaître. Il la connaissait avant ça d'un point de vue personnel, il l'avait vu, là, il avait même dit, waouh, tu sais, c'est comme, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os, une fois que Dieu lui a montré Ève pour la première fois. Donc, il savait qui elle était, il savait qu'elle était sa femme, mais c'est cette expression-là de connaître, quand il a eu cette relation sexuelle avec elle et que Caïn est né de cette relation-là. Alors, connaître ici veut dire, justement, l'acte sexuel est plus qu'un acte physique. C'est un acte de partage, un acte de communion profonde. C'est le don total de soi. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu veut que cela se produise à l'intérieur du mariage. Autrement dit, la sexualité, qui est un don excellent de Dieu, doit se produire à l'intérieur du mariage d'une manière exclusive et d'une manière permanente. Parce que Dieu savait qu'il y avait quelque chose d'unique et de spécial qui arriverait à ce moment-là. Même dans Hébreux 13, 3, qui est dans un livre dans le Nouveau Testament, ça dit ceci, « Que le mariage soit respecté de tous, et le lit conjugal, et l'expression qui est ici, c'est la relation sexuelle, le coït, qui est un terme pour parler de la relation sexuelle, exempt de souillure. Alors que le lit conjugal, que la relation sexuelle entre l'homme et sa femme soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Et ici, comment est-ce que souillure, c'est quand il y a de l'impudicité ou de l'adultère. De l'impudicité, c'est dans des relations sexuelles en dehors du mariage. Alors, je ne suis pas marié, je rencontre quelqu'un et on a une relation sexuelle, on a des relations sexuelles, c'est d'être impudique. Et ça dit que Dieu va juger les impudiques. L'adultère, c'est une fois que je suis marié, et là, si je vais voir en dehors de mon foyer, en dehors de mon mari ou de mon épouse, mais là encore là, ici Dieu dit, c'est mal, c'est de la souillure, et il appelle ça de l'adultère, c'est de tromper l'autre. Et Dieu dit encore là, il va juger les adultères comme il va juger les impudiques. Je me souviens encore d'un couple qui fréquentait l'église ici depuis quelques mois. Et après un enseignement comme ce matin, où j'enseignais dans un livre de la Bible, et puis on parlait de Dieu et du péché, puis de qu'est-ce que Dieu pense de cela et comment la solution de Dieu par rapport au péché. Et là, ils sont venus me voir par après, puis les deux ensemble, et puis ils m'ont dit, Benoît, nous autres, là, on était là matin, on a entendu ton enseignement, puis là, on s'est regardé l'un l'autre, puis on a dit, « Hey, on est dans le péché, nous autres. On vit ensemble, qu'on n'est pas mariés. » Là, ils ont dit, « On veut régler ça. » Alors, j'ai eu l'occasion de leur parler, de leur présenter le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait pour eux, c'était quoi la volonté de Dieu, et que là, si vraiment ils voulaient se repentir et revenir dans une disposition de cœur et être pardonnés par Dieu, eh bien, voici maintenant, ils devaient se tourner vers Christ, ils devaient recevoir Christ, ils devaient cesser d'avoir des relations sexuelles ensemble et de se garder jusqu'au mariage, ce qu'ils ont fait. Et j'ai eu le privilège par la suite de les baptiser, j'ai eu le privilège aussi de les marier et le privilège aussi de les voir devenir membres de l'Église. Voyez? Dieu a touché leur cœur. Il faut que je comprenne la pensée de Dieu sur la sexualité. Dieu ne fait pas ça pour nous jouer des tours. Dieu ne fait pas ça pour être un trouble-fête. Dieu fait ça parce qu'il veut le meilleur de nous autres. Il veut qu'on rencontre ce qu'il a pour nous de meilleur. Et Dieu sait ce qu'il fait. C'est son plan. Et quand on lui fait confiance, on a vraiment le meilleur. Alors ça, c'est un aspect très important pour ce matin. Maintenant, le troisième déclaration choc. Le but ultime de la sexualité est de montrer notre besoin spirituel de Christ. Ça, c'est le but ultime. Et ici, j'ai un verset que je crois qui est très approprié pour ce matin, Colossiens 2:10. Je l'ai mis en deux versions. Il y a différentes versions de la Bible et des fois, dans la façon que c'est traduit dans une version, ça reflète quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ces deux versions-là. Parole de vie, premièrement, dit ceci. Dans la communion avec Christ, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Et la deuxième version, ce qui est sommaire, ça dit, par votre union avec Christ, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Maintenant, quand je dis que le but ultime de la sexualité, il y a le but premier qu'on a vu, qu'être une seule chair, où là on peut connaître une intimité entre un homme et une femme inégalée. Il n'y a pas d'autre sorte de relation qui peut aller aussi loin. Maintenant, le but ultime de la sexualité, c'est de nous emmener à voir notre besoin de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Et avec ce verset-là ici que je viens de présenter. Vous allez comprendre avec cette citation de Blaise Pascal, qui est un philosophe qui a dit quelque chose de très pertinent. Il dit ceci, il est décédé cet homme-là, mais il est très connu. Il existe dans le cœur de tout homme un vide en forme de Dieu. Okay? Il ne parle pas ici de la forme nécessairement que ça a là, c'est rond, carré ou pointu, c'est pas ça qui est important. C'est l'idée, il y a une forme en dedans de nous qui est la forme de Dieu. Et ça, c'est un vide. Rien d'autre que Jésus-Christ lui-même ne peut combler ce vide. Vous savez, la sexualité exerce une force d'attraction extrêmement puissante sur nos vies. Certains essaient de combler leur vide en forme de Dieu en se livrant tête première dans les plaisirs sexuels de toutes sortes. Et ce qui est en fait, ils recherchent Dieu, mais ils pensent que c'est à travers les plaisirs sexuels parce que là aussi, il y a un niveau d'intimité qui est grand. Il y a une communion, il y a un partage qui est grand. Et autrement dit, l'homme et la femme, tous les deux, nous avons été créés pour une intimité. On est créé pour rechercher une intimité. Et oui, cette intimité-là, au niveau humain, peut se retrouver entre un homme et une femme, et à certains autres niveaux, entre des hommes, entre des femmes, entre hommes et femmes, et ainsi de suite. Camaraderie, amis et tout ça. Mais c'est ce besoin d'être en communion, d'être intime. Et la sexualité reflète ce besoin d'intimité dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Mais ce vrai besoin d'intimité ultime ne va être comblé seulement que par Christ. Il n'y a pas aucune vie sexuelle sur la terre qui peut combler, autrement dit, tous vos besoins. Le plein épanouissement, je l'appelle comme ça, là, le plein épanouissement, c'est en Christ qu'on peut le trouver. Parce que vous avez été créé par Dieu et vous avez été créé pour Dieu. Et c'est ça qui est important. Rien d'autre ne peut combler ce besoin. Et je vais terminer en vous disant ceci. La Bible présente la sexualité comme un don excellent de Dieu. Le contexte pour découvrir et profiter de ce don au maximum, c'est l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage. Ça, c'est l'intention de Dieu. En dehors de ça, vous n'y arriverez pas. La Bible présente aussi que l'épanouissement sexuel a très peu à voir avec la sexualité, car le but premier de la sexualité, c'est de permettre à un homme et une femme de devenir une seule chair, et ainsi connaître la plus profonde intimité humaine qui puisse exister entre un homme et une femme. La sexualité est la plus haute expression de cette intimité de cœur et d'âme dans un couple. Moi, j'ai entendu quelqu'un, à un moment donné, qui a dit, il dit, la sexualité, moi, je la vois de cette manière. Il arrive des moments où je suis tellement en communion avec ma femme. C'est un homme qui parlait. Je suis tellement un avec elle au niveau de l'âme, de l'esprit, nos cœurs, nos projets, là, ce qu'on vit. Puis là, il dit, la seule façon là, qu'on réussit à communiquer cette intensité de connexion qu'on a l'un avec l'autre, il dit, c'est de la sexualité. Et il dit, ça termine toujours dans la sexualité. Parce que c'est l'expression la plus haute de l'intimité. C'est pour ça que lorsqu'il y a des problèmes de communication dans un couple, le premier indice, c'est quoi? C'est où? La sexualité. La sexualité, c'est là que ça va se refléter. Rétablis l'harmonie du couple, puis tu vas rétablir les rapports intimes dans le couple. C'est comme ça. Et là, j'ai inventé cette petite phrase. Tu sais, il y a un petit chant qui dit « Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. » Ça, c'est-tu Astérix? Et en passant, là, à l'inauguration, il va y avoir tout un sketch du village de Trois-Rivières-Rois, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Là. Chantal, c'est quoi le nom? Oh, c'est ça, Batix, le village Batix Évangélix. Alors, c'est à ne pas manquer. Mais voici la phrase que j'ai, puis là, je vais vous inviter à la chanter avec moi, OK? Quand l'harmonie conjugale, tout va. Quand l'harmonie conjugale, tout va. Allez-y avec moi, on y va? On y va ensemble? Quand l'harmonie conjugale, tout va. Quand l'harmonie conjugale va, tout va. Quand l'harmonie conjugale va, tout va. Là, là. Puis là, je ne sais pas comment ça finit, mais en tout cas, ça va. Hein? Alors, mesdames, maintenant, à vos maris qui viennent et qui veulent se frotter, puis dire t'es fine, chérie, t'es belle, vous chanterez quand l'harmonie conjugale va, tout va. Quand l'harmonie conjugale va, tout va. Puis il va comprendre tout de suite. Fais la vaisselle, fais le souper, couche les enfants. Règle ce que tu as fait hier, que ce que tu me dis là, que j'avais pas d'allure, puis fais tes devoirs, puis tu vas voir. Quand l'harmonie conjugale va, tout va. Hein? Amen. Vous avez tout compris. La Bible présente que le plein épanouissement se trouve seulement en Christ. Notre soif profonde d'intimité, qui est représentée par la sexualité dans un couple, ne sera pleinement assouvi qu'en venant à Christ lui-même, en le connaissant lui d'une manière personnelle et d'une manière spirituelle. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de versets qui font ce lien entre Christ et son épouse et le mariage qu'il va avoir, parce que c'est ce niveau d'intimité qui est reflété aussi dans le couple. Et en fait, le couple est un peu comme un prototype de qu'est-ce que va être la vraie intimité un jour, c'est-à-dire celle qui est spirituelle avec Christ comme mon Sauveur, le Seigneur de ma vie, le Dieu de mon existence pour lequel j'ai été créé et avec lequel je vais pouvoir passer l'éternité. Dans Jean 7, 37, on lit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus debout dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, si quelqu'un ressent la soif, » il ne parlait pas de la soif physique, là. Hein? Il parlait de la soif de l'âme, la soif de vivre vraiment, la soif d'entendre son cœur battre, là, la soif d'être heureux, profondément heureux, la soif d'être libéré, libéré du péché, libéré de la dépression, libéré des moments d'état d'âme où je me sens vide, sale, et il y a quelque chose qui ne va pas dans moi, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je ne me sens pas bien dans ma peau. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un est tanné, si quelqu'un ressent son besoin de Dieu, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Il n'aura plus jamais soif. Extraordinaire. Vous avez été créés par Dieu et vous avez été créés pour Dieu. Ce que vous ressentez en dedans de vous, les malaises que vous vivez, les moments de découragement que vous avez, les moments de non-sens que vous dites que la vie c'est pour ça, si c'est la vie c'est comme ça, si les relations c'est comme ça, si le mariage c'est comme ça, si d'avoir des enfants c'est comme ça, si le travail c'est comme ça, si c'est comme ça l'hiver. Hein? À quoi bon? Ce que vous êtes en train de dire c'est ceci. J'ai soif. J'étais cœuré. Cœuré de cette vie-là, là. Y a-t-il d'autre chose que ça, là? Et la réponse est oui. Puis c'est pas une chose, c'est pas un projet, c'est une personne. Et c'est la personne la plus importante. Il vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix. Et il vous invite ce matin à venir à lui. À étancher votre soif. Mais vous avez besoin de l'inviter à venir dans votre vie, à le recevoir comme votre Sauveur, à lui faire confiance et à s'approcher de lui. On va se lever ensemble. Je vais inviter l'équipe pour un dernier chant. Et juste avant qu'on chante, j'aimerais juste vous donner l'occasion de prier. Priez silencieusement, là où vous êtes, dans vos cœurs. Jésus est ici, Jésus est présent, il vous entend, il vous connaît. Puis si ce matin vous aimeriez lui parler, vous aimeriez ouvrir votre cœur, je vais vous inviter à le faire maintenant. Alors on va prendre un temps de silence, on va fermer nos yeux si vous voulez bien, courber nos têtes, sentez-vous à l'aise, vous êtes seul à seul avec le Seigneur dans le fond. Et lui peut interagir avec vous maintenant. Et je vais vous inviter à prier de cette manière. Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai un vide dans ma vie. Seigneur, j'ai une soif, une grande soif. J'ai jamais trouvé comment satisfaire ma soif. Je l'ai cherché de toutes sortes de manières, dans toutes sortes d'endroits. Je me suis trompé, Seigneur. Maintenant, je comprends que tu m'invites à venir à toi. Seigneur, j'ai des questions et des choses qui ne sont pas claires dans ma tête, mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tu es mort sur la croix pour moi et puis tu m'invites ce matin à me donner le pardon, me donner ta vie, venir habiter en moi. Mais Seigneur, je t'ouvre mon cœur tout grand maintenant. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Entre dans ma vie. Prends ma vie. Change ma vie, Seigneur. Donne-moi le pardon de mes péchés. Restaure mon âme. Fais-moi du bien. Guéris-moi. Guéris mes blessures. Guéris, Seigneur, les faux pas que j'ai faits. Et maintenant, je veux m'accrocher à toi. Je t'invite, Seigneur. Merci. Merci de m'avoir tant aimé. je me confie en toi. Je crois en toi ce matin. En ton nom, je te prie pour ta gloire. Amen.